Au McMahon's, le barman, un gros ourson barbu, a fait un grand sourire en nous voyant arriver. Il nous a servi à chacun un whisky et a poussé vers nous l'indice suivant. Quand je suis au plus bas, il n'y a qu'un endroit pour moi. Il s'agissait de la statue d'Alice au Pays des Merveilles à Central Park, dont Amy m'avait dit, elle me l'avait dit, elle savait qu'elle me l'avait dit, à maintes reprises, qu'elle lui remontait le moral quand elle était petite. Je ne me rappelle aucune de ces conversations. Je le dis en toute franchise, je ne m'en souviens pas du tout. J'ai un soupçon de TDA et j'ai toujours trouvé ma femme un peu éblouissante, dans le sens le plus littéral du mot. Perdre la netteté de sa vue, en particulier pour avoir regardé une lumière trop vive. Il suffisait d'être près d'elle et de l'entendre parler. Ce qu'elle disait n'avait pas toujours d'importance. Cela aurait dû en avoir, mais ce n'était pas le cas. Lorsque nous sommes arrivés à la fin de la journée, au moment d'échanger nos cadeaux proprement dits, les cadeaux en papier, tradition de la première année de mariage, Amy ne m'adressait plus la parole. « Je t'aime, Amy, tu sais que je t'aime. » Et je dis, la suivant tant bien que mal, à travers les larges troupeaux de touristes ahuris plantés au milieu du trottoir, bouche bée. Amy se faufilait dans la foule de Central Park, manœuvrant entre les joggeurs aux yeux laser, les skateurs en train de faire des ciseaux, les parents agenouillés et les bambins qui titubaient comme des ivrognes, toujours juste un peu en avance sur moi, les lèvres serrées, se hâtant vers nulle part. J'ai essayé de la rattraper, de lui prendre le bras. Elle a fini par s'arrêter, m'offrant un visage sans expression, tandis que je m'expliquais, comprimant mentalement d'un doigt mon exaspération. « Je ne comprends pas pourquoi il faut que je te prouve mon amour en me rappelant exactement les mêmes choses que tu te rappelles, exactement de la même façon. Cela ne signifie pas que je n'aime pas notre vie ensemble. » Non loin, un clown gonflait un ballon en forme d'animal, un homme achetait une rose, un enfant léchait un cornet de glace et une authentique tradition venait de naître, une tradition que je ne devais jamais oublier. Amy en faisait toujours des tonnes et moi, je ne me montrais jamais, au grand jamais, digne de ses efforts. Bon anniversaire, connard. « À mon avis, 5 ans, elle va se mettre vraiment en rogne, » a poursuivi Go. « Alors j'espère que tu lui as trouvé un cadeau vraiment super. »« C'est sur ma liste de choses à faire. »« C'est quoi le symbole pour les 5 ans, le papier ?»« Le papier, c'est la première année, » j'ai dit, parce que je le savais pertinemment. À la fin de la chasse au trésor de la première année, qui contre toute attente s'était terminée de façon si atroce, Amy m'avait offert un ensemble de correspondances chic avec mes initiales en relief en haut, un papier si crémeux que je m'attendais à me mouiller les doigts en le touchant. De mon côté, j'avais offert à ma femme un cerf-volant en papier rouge vif acheté dans un bazar, songeant au parc, à des pique-niques, aux rafales estivales de vent tiède. Nous n'avions apprécié notre cadeau ni l'un ni l'autre. Nous aurions l'un comme l'autre préférer celui que nous offrions. C'était l'inverse d'une nouvelle de O. Henry. « Argent ?» a tenté Go. « Bronze ? Ivoire ? Aide-moi » !»« Bois. Il n'y a pas de cadeau romantique en bois. » À l'autre bout du bar, Sue a plié proprement son journal et l'a laissé sur le comptoir avec sa tasse vide et un billet de $5. Nous avons tous trois échangé des sourires muets lorsqu'elle est sortie. « J'ai trouvé !» a fait Go. « Rentre chez toi, nique-la un bon coup, puis donne-lui une bonne gifle avec ta bite en gueulant « En v'là, Dubois, salope !» Nous avons ri. Puis nos deux visages se sont empourprés de la même manière. C'était le genre de blague salée, antifamiliale, que Go aimait à me balancer comme une grenade. C'était aussi la raison pour laquelle, au lycée, il y avait toujours eu des rumeurs qui disaient que nous couchions ensemble en secret. Twincest. Nous étions trop proches. Nos private jokes, nos conciliabules. Je suis à peu près certain de n'avoir pas besoin de le préciser, mais vous n'êtes pas Go, vous pourriez vous fourvoyer, alors je vais le faire. Ma sœur et moi n'avons jamais couché ensemble ni même songé à le faire. On s'aime vraiment bien, c'est tout. » Go mimait maintenant une claque dans la figure de ma femme avec une bite imaginaire. Cela devrait d'ores et déjà être tout à fait clair, Amy et Go ne seraient jamais copines. Elles étaient trop possessives toutes les deux. Go avait l'habitude d'être la femelle dominante dans ma vie. Amy avait l'habitude d'être la femelle dominante dans la vie de tout un chacun. Bien qu'elles vivent toutes deux dans la même ville, et ce à deux reprises, d'abord New York, puis ici, elles se connaissaient à peine. Elles entraient et sortaient de ma vie comme des comédiennes au timing impeccable. La première sortait par une porte quand la seconde entrait par l'autre. Et, lors des rares occasions où elles occupaient la même pièce, la situation semblait les rendre toutes deux perplexes. Avant qu'Amy et moi nous engagions, nous fiancions, nous marions, Go me livrait un aperçu de sa pensée au détour d'une phrase anodine. « C'est marrant, je n'arrive pas à la cerner, à piger qui elle est vraiment. Et on dirait que tu n'es pas vraiment toi-même avec elle. Et il y a une différence entre aimer vraiment quelqu'un et aimer l'idée qu'on se fait de quelqu'un. Et enfin, l'important, c'est qu'elle te rende vraiment heureux. » À l'époque où Amy me rendait vraiment heureux. Amy avait ses propres opinions sur Go. « Elle est très Missouri, non ?» Et « Faut être d'humeur pour la voir. » Et « Elle est très en demande avec toi, mais bon, c'est qu'elle ne doit avoir personne d'autre. » J'avais espéré, lorsque nous nous étions tous retrouvés dans le Missouri, qu'elles allaient enterrer l'âge de guerre, observer un statu quo, accepter leurs divergences. Cela n'a pas été le cas, ni pour l'une ni pour l'autre. Mais Go était plus drôle qu'Amy. Donc la bataille était inégale. Amy était intelligente, cinglante, sarcastique. Amy savait me mettre en rogne. Elle savait imposer son point de vue d'une pique bien sentie. Mais Go me faisait toujours rire. Rire de votre épouse, c'est une pente dangereuse. « Je croyais qu'on avait dit que tu t'abstiendrais de mentionner mes organes génitaux à l'avenir, » j'ai dit. Que dans la limite de notre relation frère-sœur, je n'avais pas d'organes génitaux. Le téléphone a sonné. Go a bu une gorgée de bière et a répondu, puis elle a levé les yeux au ciel avec un sourire. « Il est bien là. Un instant, s'il vous plaît. » À mon intention, elle a articulé en silence « Carl ». Carl Pelly habitait en face de chez moi et Amy. À la retraite depuis 3 ans, divorcé 2 fois. Il s'était installé dans notre lotissement juste après son départ en retraite. Avant, il était voyageur de commerce, en fourniture pour fêtes d'enfants. Et je sentais bien que, après 4 décennies à vivre dans des motels, il ne se sentait pas tout à fait chez lui. Il se présentait au bar pratiquement tous les jours, avec un sac en papier du fast-food Hardee's, à l'odeur âcre, et se lamentait sur ses problèmes budgétaires jusqu'à ce qu'on lui offre le premier verre. C'était une autre chose que j'avais apprise sur Carl lors de ses journées au bar. C'était un alcoolique fonctionnel, mais avéré. Il avait la bonne grâce d'accepter tout ce dont nous essayions de nous débarrasser. Et il le pensait vraiment. Pendant 1 mois entier, Carl avait bu exclusivement des bouteilles poussiéreuses de Zima, cette boisson alcoolisée censée remplacer la bière autour de 1992 que nous avions découverte dans la cave. Lorsqu'une gueule de bois le forçait à rester chez lui, Carl trouvait toujours une raison pour appeler.
« Ta boîte aux lettres déborde aujourd'hui, Nick. T'as peut-être reçu un paquet ?»
Ou
« Il paraît qu'il va pleuvoir. Tu devrais fermer tes fenêtres. »
Ses raisons étaient bidons. Carl avait juste besoin d'entendre le cliquetis des verres, le glouglou de l'alcool qu'on verse. En prenant le téléphone, j'ai secoué un pichet de glace près du combiné pour que Carl puisse imaginer son gin.
« Salut, Nicky !»
a fait Carl d'une voix faible.
« Désolé de te déranger. Fallait juste que je te dise... Ta porte est grande ouverte et ton chat est dehors. Il n'est pas censé sortir, si ?»
J'ai regardé la pendule. Il était 14h. 2:00.
« J'irai bien voir ce qui se passe, mais je suis pas très en forme. »
a vivement ajouté Carl. « T'en fais pas, je dois rentrer de toute façon. » C'était à 15 minutes de voiture, droit vers le nord, sur la route longeant le fleuve. Lorsque je pénètre dans notre lotissement, il arrive que j'ai un frisson rien qu'à voir le nombre de maisons béantes, sombres, des maisons qui n'ont jamais connu d'occupants, ou des maisons qui ont connu des propriétaires et les ont vues se faire éjecter. Des maisons qui se pavanent dans leur vide triomphant, dépourvues de toute humanité. Lorsque nous avons emménagé, nos rares voisins nous sont tombés dessus. Une mère célibataire, d'âge moyen, nous a apporté un petit plat maison. Un jeune père de triplés nous a apporté un pack de 6 bières. Sa femme était restée à la maison avec les triplés. Un couple de chrétiens plus âgés qui vivait à quelques maisons de chez nous et, bien sûr, Karl d'en face. Nous avons pris place sous la véranda, face au fleuve, et ils ont tous parlé d'un air contrit, des emprunts à taux variable et des intérêts à 0% et 0 dollar à avancer. Puis, ils ont tous observé que nous étions les seuls, Amy et moi, à avoir accès au fleuve, les seuls à ne pas avoir d'enfants. « Vous n'êtes que tous les deux, dans une si grande maison ?» a demandé la mère célibataire, distribuant des espèces de bouts d'omelette. « Que tous les deux ?» j'ai confirmé avec un sourire. Et j'ai hoché la tête d'un air approbateur en goûtant à une bouchée d'œufs gélatineux. « Vous devez vous sentir seule ?» Sur ce point, elle n'avait pas tort. 4 mois plus tard, la dame, intimidée par notre si grande maison, a perdu sa bataille contre l'hypothèque et s'est évaporée dans la nature avec ses 3 gamins. Sa maison est restée vide. Sur la fenêtre du salon, un dessin d'enfant représentant un papillon est toujours scotché, les couleurs vives brunies par le soleil. Un soir, il n'y a pas longtemps, en passant devant, j'ai vu à l'intérieur un homme, barbu et débraillé, qui regardait par la fenêtre, derrière le dessin. Il flottait dans la pénombre comme un misérable poisson d'aquarium. Quand il a vu que je l'avais repéré, il s'est brusquement reculé dans les entrailles de la maison. Le lendemain, j'ai laissé un sac en papier Kraft plein de sandwichs sur le perron. Il est resté au soleil pendant 1 semaine, à se liquéfier sous l'effet de la putréfaction, jusqu'à ce que je le récupère pour le mettre à la poubelle. Silence. Le lotissement était toujours plongé dans un silence perturbant. Comme j'approchais de chez nous, conscient du bruit isolé de mon moteur, j'ai constaté que le chat était effectivement sur le perron. Toujours sur les marches, 20 minutes plus tard. Cela n'avait pas dû échapper à Karl. Amy adorait ce chat. Le chat avait les griffes limées. Le chat n'avait jamais le droit d'aller dehors, sous aucun prétexte, parce que ce chat, Blicker, était adorable mais extrêmement stupide, et que, malgré le système de localisation LoJack implanté quelque part dans ses bourrelets poilus, Amy savait qu'elle ne reverrait jamais son chat si elle le laissait sortir. Il se dandinerait jusqu'au fleuve Mississippi, tralalalalair, et se laisserait flotter jusqu'au golfe du Mexique où il finirait sa course dans la gueule d'un requin bulldog affamé. Mais en fin de compte, le chat n'était même pas assez malin pour dépasser le perron. Blicker était perché sur le bord du porche, sentinelle dodue mais fière. Encore un qui n'était pas à la hauteur de ses aspirations, notre petit monstre. Quand je me suis engagé dans l'allée, Karl est sorti sur le pas de sa porte et j'ai senti le regard du vieil homme et du chat sur moi lorsque je suis descendu de la voiture pour me diriger vers la maison. Les pivoines rouges sur les bordures, charnues et juteuses, demandaient à être dévorées. Je m'apprêtais à me mettre en position de blocage pour attraper le chat quand j'ai vu que la porte était ouverte. Karl me l'avait dit, mais j'avais supposé qu'elle était restée ouverte 2 minutes, le temps de sortir les poubelles, un truc comme ça. Non, elle était grande ouverte, béante, sinistre. Karl ne cessait de me zioter depuis son poste d'observation, attendant ma réaction. Et, comme dans une affreuse performance artistique, je me suis surpris à jouer le rôle du mari inquiet. Figé sur la marche du milieu, j'ai froncé les sourcils, puis j'ai monté l'escalier 4 à 4 en appelant ma femme. Silence. « Amy, t'es là ?» Je me suis précipité à l'étage. Pas d'Amy. La planche à repasser était installée, le fer était toujours branché, une robe attendait, posée là. « Amy ?» Je suis redescendu à toute vitesse. J'ai foncé dans le salon et me suis arrêté net. La moquette était constellée d'éclats de verre. La table basse était en 1000 morceaux. Le canapé était sur le flanc et des livres étaient étalés sur le sol comme un jeu de cartes. Même la lourde ottomane ancienne gisait les quatre fers en l'air comme un cadavre. Au milieu de ce chaos, une paire de bons ciseaux bien tranchants. « Amy ?» Je me suis mis à courir en beuglant son nom. Dans la cuisine, où une bouilloire sifflait, au sous-sol, où la chambre d'amis était vide, puis par la porte de derrière. J'ai traversé le jardin d'un pas lourd pour rejoindre l'étroit ponton qui donnait sur le fleuve. J'ai jeté un coup d'œil furtif sur le côté pour voir si elle était dans notre canot, où je l'avais trouvée un jour, encore attachée à la rive, se balançant sur l'eau, le visage face au soleil, les yeux fermés. Et tandis que je contemplais les reflets éblouissants du fleuve et son beau visage immobile, elle avait soudain ouvert ses yeux bleus. Elle ne m'avait rien dit. Je ne lui avais rien répondu, et j'étais retourné à la maison tout seul. « Amy ?» Elle n'était pas sur l'eau. Elle n'était pas dans la maison. Amy n'était pas là. Amy avait disparu.